À moins d'habiter dans les quartiers les plus au sud de Chicago, le moyen le plus rapide pour rejoindre Springfield est de prendre l'autoroute I-55. Aux heures de pointe, quand on quitte le centre-ville et qu'on traverse les banlieues pavillonnaires de l'ouest, le trafic est ralenti. Mais dès qu'on a passé Joliet, la route se dégage et c'est un ruban d'asphalte lisse qui se déroule alors en ligne droite, direction sud-ouest, en passant par Bloomington, siège du groupe d'assurance State Farm et des biscuits apéritifs Beer Nuts, puis Lincoln, ainsi baptisé en hommage au président qui avait contribué à fédérer la ville à l'époque où il n'était encore qu'un simple avocat, et des champs de maïs à perte de vue. Près de 8 années durant, j'ai fait ces 3 heures et demie de route, en général seul, enchaînant les allers-retours à Springfield pendant quelques semaines à l'automne et une bonne partie de l'hiver, et des premiers mois du printemps, période où la législature de l'Illinois accomplissait l'essentiel de son travail. Je partais le mardi soir après le dîner, je rentrais le jeudi soir ou le vendredi matin. Au bout d'environ 1 heure de route à la sortie de Chicago, on ne captait plus de réseau, et les seules fréquences encore accessibles étaient celles des radios musicales évangéliques ou de libre antenne. Pour me tenir éveillé, j'écoutais des livres audio, les plus longs possibles, des romans la plupart du temps. John le Carré et Toni Morrison étaient en tête de mon hit parade. Mais aussi des ouvrages historiques sur la guerre de sécession, l'époque victorienne ou la chute de l'Empire romain. Quand mes amis m'interrogeaient, l'air sceptique, je leur disais à quel point cette expérience à Springfield était riche d'enseignements pour moi. Et c'était vrai. Les premières années, en tout cas. Des 50 États, l'Illinois était celui qui illustrait le mieux la diversité démographique de la nation. On y trouvait une métropole trépidante, de vastes banlieues pavillonnaires, des terres agricoles, des villes industrielles, et une région qui annonce déjà le sud du pays. Tous les jours, sous le grand dôme du Capitole, c'était un échantillon représentatif de l'Amérique tout entière qui défilait, l'incarnation vivante d'un poème de Carl Sandburg. Il y avait des gamins de la ville en sortie scolaire qui chahutaient, des banquiers impeccablement coiffés sans cesse en train de dégainer leur portable à clapet, des fermiers en casquette venus plaider pour un assouplissement des règles permettant aux barges industrielles de transporter leurs produits sur le marché. On voyait des mères de famille latinos en quête de financement pour ouvrir une nouvelle crèche, et des bandes de motards à veste en cuir et roues flaquettes venus protester contre le énième projet de loi visant à rendre obligatoire le port du casque. Pendant les premiers mois, j'ai fait profil bas. Mon nom bizarre et mon diplôme de Harvard inspiraient une certaine méfiance à bon nombre de mes collègues. Mais je faisais consciencieusement mes devoirs et j'aidais à lever des fonds pour financer la campagne d'autres sénateurs. J'ai fait peu à peu connaissance avec mes collègues des bancs du Sénat et leurs équipes, pas seulement dans l'hémicycle, mais aussi sur les terrains de basket, les parcours de golf, ou encore grâce aux parties de poker que nous organisions chaque semaine, démocrates et républicains confondus, $2 la mise, la relance limitée à 3, la pièce en fumée, les jurons qui fusaient, et le lent chuintement des canettes de bière décapsulées les unes après les autres. J'avais l'avantage de déjà connaître le leader de l'opposition démocrate au Sénat, un homme corpulent, âgé d'une 60aine d'années, du nom d'Emil Jones. Il avait commencé sa carrière dans l'un des plus anciens comités de coordination locale, à l'époque de Richard J. Daley, et représentait la circonscription où j'avais travaillé jadis dans le milieu associatif. C'est comme ça que nous nous étions rencontrés. J'étais venu le voir dans ses bureaux avec un groupe de parents qui cherchaient des financements pour monter un programme d'aide à l'entrée des jeunes des quartiers dans les classes préparatoires aux grandes universités. Au lieu de nous envoyer paître, il nous avait accueillis à bras ouverts. « Vous ne le savez sans doute pas, nous avait-il dit, mais j'attends votre visite avec impatience depuis un bout de temps. » Il nous avait expliqué que lui-même n'avait jamais eu la chance d'aller à l'université. Il voulait faire en sorte que l'État alloue un budget plus conséquent aux quartiers noirs défavorisés. « Je vous laisse réfléchir aux moyens dont nous avons besoin, » m'avait-il dit en me tapant sur l'épaule quand nous étions ressortis de son bureau. « De mon côté, je m'occupe des questions politiques. » Émile avait tenu parole. Le programme avait pu voir le jour, et notre amitié ne s'était jamais démentie depuis. Il éprouvait une sorte de fierté à mon égard, je ne sais pas trop pourquoi, et il accueillait mes projets réformistes avec une bienveillance protectrice. Même quand il avait désespérément besoin de voix pour faire passer ses propres projets, la légalisation des jeux d'argent sur les voies fluviales à Chicago notamment était l'une de ses obsessions, il n'essayait jamais de me tordre le bras si je lui disais que je ne pouvais pas le soutenir. Même s'il ne se gênait pas alors pour pester contre moi en sortant en trompe de mon bureau pour frapper à une autre porte. « Barack est différent », avait-il confié un jour à l'un de ses collaborateurs. « Il ira loin. » Malgré ma diligence et la bonne volonté d'Émile, Ni l'un ni l'autre ne pouvions rien changer à la dure réalité. Nous appartenions au parti minoritaire. Les sénateurs républicains de l'Illinois avaient adopté la même attitude inflexible que le président ultra-conservateur de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, en son temps, pour neutraliser les démocrates au Congrès. Le parti républicain avait la main mise absolue sur les projets de loi qui passaient en commission d'examen et sur les amendements. À Springfield, il y avait un terme spécial pour désigner les membres novices de l'opposition comme moi. Les champignons. Parce qu'on vous fait bouffer de la merde et moisir dans l'ombre. De temps en temps, j'arrivais à faire passer des projets qui avaient un impact significatif sur la législation. J'ai contribué à faire en sorte que la version propre à l'Illinois de la loi sur la réforme du système de santé signée par Bill Clinton apporte un soutien suffisant aux gens qui entraient sur le marché du travail. Au lendemain d'un nouveau scandale comme il y en avait en permanence à Springfield, Émile m'a demandé d'être le représentant de notre groupe parlementaire dans une commission chargée de réviser les lois sur la moralisation de la vie politique. Personne ne voulait se dévouer, parce que tout le monde pensait que c'était une cause perdue. Mais grâce au bon rapport que j'entretenais avec mon homologue républicain Kirk Dillard, nous avons fait voter une loi prohibant certaines pratiques embarrassantes. Il était désormais impossible, par exemple, de détourner des fonds de campagne pour des dépenses personnelles tels que des travaux de rénovation ou un nouveau manteau de fourrure. Certains sénateurs ne nous ont plus adressé la parole pendant des semaines après cela. Autre exemple, plus typique. Un jour, vers la fin de la première session parlementaire, je me suis levé pour prendre la parole et exprimer mon opposition à un allègement des charges fiscales concédé de manière outrageusement abusive à certains secteurs d'activité ainsi favorisés alors que, dans le même temps, l'État rognait sur les moyens alloués à l'aide aux plus pauvres. J'avais soigneusement rédigé mes arguments et m'étais préparé avec autant de méticulosité qu'un avocat appelé à plaider devant la cour d'assises. J'ai expliqué que ces réductions d'impôts injustifiées allaient à l'encontre même des principes de marché conservateurs que les républicains prétendaient défendre. Quand je me suis rassis, le président du Sénat, Pate Phillip, un ex-marine baraqué aux cheveux blancs, réputé pour les insultes dont il gratifiait régulièrement les femmes et les membres des minorités visibles avec une remarquable désinvolture, s'est approché de mon pupitre. « Sacré discours que vous nous avez fait là », m'a-t-il dit en mâchouillant un cigare éteint. « Très bien argumenté. Merci. Il se peut même que vous ayez réussi à faire changer d'avis pas mal de monde », a-t-il continué, « mais pas à leur faire changer de vote. » Et sur ce, il a adressé un signe au secrétaire des débats, puis regardé avec satisfaction s'allumer les lumières vertes signifiant « oui » sur le tableau du décompte des voix. Voilà ce qu'était la politique à Springfield. Une série de transactions négociées la plupart du temps sous la table et des législateurs qui mettaient en balance les pressions concurrentes de divers intérêts avec un détachement blasé de marchands de tapis, tout en restant prudents sur la poignée de sujets idéologiques sensibles, les armes à feu, l'avortement, les impôts, susceptibles de provoquer des remous au sein de leur base électorale. Non pas que ces gens fussent incapables de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises décisions politiques, simplement, cette distinction n'avait aucune importance. Ce que tous les sénateurs à Springfield avaient compris, c'est que 9 fois sur 10, les électeurs de leur circonscription ne prêtaient pas la moindre attention à ce qui se passait ici. Un compromis hasardeux, mais louable. Une entorse à la ligne orthodoxe du parti pour soutenir une idée innovante. Cela pouvait vous coûter un soutien décisif, un partenaire financier de poids, un poste prestigieux, ou même une élection. Était-il possible d'attirer l'attention des électeurs? Je m'y évertuais, en tout cas. Dans ma circonscription, je disais oui à presque toutes les sollicitations. J'ai commencé à tenir une chronique régulière dans le Hyde Park Herald, un hebdomadaire de quartier qui comptait moins de 500 lecteurs. J'organisais des rencontres citoyennes dans des salles des fêtes, j'installais les boissons et des piles de bulletins d'information sur l'avancée des projets législatifs, puis, en général, je restais assis là, en compagnie d'un pauvre collaborateur esseulé, à consulter ma montre en attendant une foule qui n'arrivait jamais. Je ne pouvais pas en vouloir aux gens de ne pas venir. Ils n'avaient pas le temps, ils devaient s'occuper de leur famille, et les débats qui agitaient Springfield leur paraissaient probablement bien éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Du reste, sur les quelques sujets majeurs auxquels ils s'intéressaient bel et bien, mes électeurs devaient sans doute être déjà sur la même longueur d'onde que moi, dans la mesure où les limites de ma circonscription, comme pratiquement toutes celles de l'Illinois, avait été tracé avec une précision chirurgicale afin que l'un ou l'autre parti soit assuré d'y exercer une domination sans partage. Si je voulais plus de fonds pour les écoles des quartiers pauvres, si je voulais faciliter l'accès des chômeurs à l'assurance maladie ou à la formation, je n'avais pas besoin de rallier les électeurs à ma cause. Les gens qu'il me fallait démarcher et convaincre vivaient ailleurs. Vers la fin de ma deuxième session parlementaire, j'ai senti que l'atmosphère du Capitole commençait à me peser. La futilité de mes entreprises au sein de l'opposition, le cynisme presque fièrement affiché de tant de mes collègues. Et sans doute cela se voyait-il. Un jour, dans la rotonde, alors qu'un de mes projets de loi venait de se faire descendre en flammes, un lobbyiste bienveillant s'est approché de moi et m'a passé le bras autour des épaules. « Il faut que tu arrêtes de te cogner la tête contre les murs, Barack », m'a-t-il dit. « Le secret pour survivre dans cet endroit, c'est de comprendre qu'il s'agit d'un business, comme vendre des voitures ou tenir le pressing du coin de la rue. Si tu commences à y voir autre chose que ça, tu vas perdre les pédales. » Certains politologues affirment que tout ce que j'ai pu raconter sur mon expérience à Springfield décrit très exactement la façon dont le pluralisme est censé fonctionner, que les tractations entre groupes d'intérêts ne brillent peut-être pas par leur noblesse, mais que c'est ça qui permet à la démocratie d'avancer, bon an mal an. J'aurais probablement eu moins de mal à entendre cet argument à l'époque si ma vie de famille ne m'avait pas tant manqué. Les deux premières années, tout allait encore bien. Michel avait beaucoup de travail de son côté, et même si, fidèle à sa parole, elle ne venait jamais à Springfield, elle n'avait fait le déplacement que le jour de mon investiture au Sénat, nous passions de longs moments au téléphone les soirs où je n'étais pas là. Et puis un jour, à l'automne 1997, elle m'a appelé au bureau, la voix tremblante. « Ça y est. » « Ça y est quoi ? » ?»« Tu vas devenir papa. » J'allais devenir papa. Quelle joie durant les mois qui ont suivi. Je me suis montré conforme en tout point au cliché du futur père. J'allais au cours de préparation à l'accouchement sans douleur. Je me suis échiné à monter un berceau. Je me suis plongé dans les manuels de puériculture, crayon à la main, pour souligner les passages cruciaux. Le 4 juillet, vers 6 heures du matin, Michel m'a réveillé pour me dire qu'il fallait qu'on parte immédiatement à l'hôpital. Je me suis levé en titubant, j'ai fermé le sac que j'avais déjà préparé et posé devant la porte, et 7 heures plus tard, j'ai fait la connaissance de Malia Ann Obama, 3 kilos et 700 grammes de perfection. Entre autres et nombreux talents, notre fille avait le sens du timing. La session parlementaire et l'année scolaire étaient terminées, aucune affaire d'importance ne m'attendait au cabinet, je pouvais donc me mettre en congé pendant tout le reste de l'été. Comme je suis un animal nocturne par nature, c'est moi qui prenais le quart de nuit afin que Michel puisse se reposer. Je posais Malia sur mes cuisses pour lui faire la lecture, tandis qu'elle me regardait de ses grands yeux pleins de curiosité. Ou bien je l'allongeais sur ma poitrine, après lui avoir fait faire son rôle et changer sa couche, et elle s'endormait, sereine, toute tiède contre ma peau. Je pensais alors à ces générations entières d'hommes qui étaient passés à côté de ce genre de moments. Je pensais à mon propre père, dont l'absence avait eu plus d'impact sur moi que le peu de temps que nous avions passé ensemble. Et je songeais que pour rien au monde, je n'aurais voulu me trouver ailleurs. Mais les contraintes que connaissent tous les jeunes parents ont fini par nous rattraper. Après quelques mois de pure félicité, Michel a repris le travail et je suis reparti jongler entre mes 3 casquettes. Nous avons eu la chance de trouver une merveilleuse nounou qui s'occupait de Malia durant la journée, mais l'embauche d'une employée à plein temps dans notre petite entreprise familiale a sérieusement écorné nos finances. C'est Michel qui a le plus souffert de cette situation. Constamment prise entre son rôle de mère et ses obligations professionnelles, elle n'était pas convaincue d'être à la hauteur, sur l'un comme sur l'autre front. Tous les soirs, après avoir fait dîner Malia, après lui avoir donné son bain, après lui avoir raconté une histoire, après avoir fait le ménage dans l'appartement, après avoir essayé de se souvenir si elle était passée au pressing, et après s'être mis un rappel pour ne pas oublier de prendre rendez-vous chez le pédiatre, elle s'écroulait souvent sur un lit vide, sachant qu'elle n'avait que quelques heures de repos devant elle avant que le cycle ne redémarre, pendant que son mari s'occupait de choses importantes. Nous avons commencé à nous disputer plus fréquemment, tard le soir en général, quand nous étions tous les deux morts de fatigue. « Ce n'est pas pour ça que j'ai signé, Barack », m'a dit un jour Michel. « J'ai l'impression de tout faire toute seule. » Ces paroles m'ont blessé. Quand je ne travaillais pas, j'étais là, à la maison. Et quand j'étais à la maison, si jamais il m'arrivait d'oublier de nettoyer la cuisine après le dîner, c'était parce que j'allais devoir passer une bonne partie de la nuit à corriger des copies ou à peaufiner un rapport. Mais j'avais beau me défendre, je savais bien que je ne faisais pas ce qu'il fallait. La colère de Michel renfermait une vérité plus rude encore. J'essayais de donner beaucoup à beaucoup de gens. J'avais choisi la difficulté, comme elle l'avait prédit à l'époque où nos fardeaux étaient plus légers, nos diverses responsabilités personnelles moins enchevêtrées. Je me suis rappelé alors la promesse que je m'étais faite à la naissance de Malia. Que je serais là pour voir mes enfants grandir, qu'ils me connaîtraient, qu'ils sauraient à quel point je les aimais, et qu'ils sentiraient que je les avais toujours fait passer avant tout le reste. Assise dans la pénombre de notre salon, Michel n'avait plus l'air en colère à présent. Elle avait simplement l'air triste. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» m'a-t-elle demandé. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Je sais que je n'ai pas été capable de lui avouer que je n'en étais plus aussi sûr. Il est difficile, rétrospectivement, de comprendre pourquoi on fait quelque chose d'idiot. Et je ne parle pas des petites bêtises de tous les jours. Tâcher sa cravate préférée parce qu'on a essayé de manger une soupe en conduisant, ou se faire un tour de rein parce qu'on s'est laissé embarquer dans un match de foot à Thanksgiving. Je parle des choix désastreux qu'on fait à l'issue d'une longue réflexion. Tous ces moments de la vie où, ayant identifié un problème, on prend le temps de l'analyser, puis, avec une confiance absolue, on y réagit très exactement comme il ne fallait pas. Voilà comment je me suis lancé dans la course au Congrès. Au terme de nombreuses conversations, j'ai dû reconnaître que Michel avait raison de soulever cette question. Le peu que je parvenais à accomplir à Springfield valait-il autant de sacrifices? Plutôt que de me délester d'un trop lourd fardeau, cependant, je suis allé dans la direction opposée, décidant qu'il était temps de donner un coup d'accélérateur et de viser un poste où j'aurais plus d'influence. Peu de temps auparavant, Bobby Rush, ancien membre des Black Panthers et vétéran du Congrès, s'était présenté contre Richard Daley à Chicago lors des élections municipales en 1999 et s'était fait étriller, même dans sa propre circonscription. Je trouvais que Rush avait mené une campagne peu inspirée, sans réel projet hormis la vague promesse de reprendre le flambeau allumé par Harold Washington. Si c'était ainsi qu'il entendait s'acquitter de sa mission au Congrès, je me disais que je pourrais faire mieux. Après en avoir discuté avec quelques conseillers en qui j'avais toute confiance, j'ai demandé à mon staff de bricoler en interne un rapide sondage pour voir si j'avais des chances de l'emporter contre Rush. Notre échantillon informel paraissait probant. Sur la foi de ces résultats, j'ai réussi à convaincre plusieurs amis proches de m'aider à financer la campagne. Puis, malgré les avertissements d'un certain nombre de personnalités politiques plus expérimentées, d'après lesquelles Rush était plus solide qu'il n'en avait l'air, et malgré l'incrédulité de Michel à l'idée que je puisse penser qu'elle serait plus heureuse de me voir travailler à Washington plutôt qu'à Springfield, j'ai annoncé ma candidature au siège de représentant de la première circonscription de l'Illinois au Congrès. Pratiquement dès le départ, la campagne a été un désastre. Au bout de quelques semaines à peine, les attaques ont commencé à fuser du camp Rush. Obama est un outsider, il est soutenu par les Blancs, c'est un élitiste de Harvard. Et puis c'est quoi ce nom? Vous êtes sûr qu'il est noir? Ayant récolté suffisamment d'argent pour faire réaliser un sondage en bonne et due forme, je me suis aperçu que Bobby était bien connu d'une immense majorité d'électeurs de la circonscription, à hauteur de 90%, et que son taux de popularité atteignait les 70%, alors qu'il n'était que 11% à être capable de m'identifier. Peu après, le fils de Bobby est mort dans des conditions tragiques, tué dans une fusillade, ce qui a soulevé une vague d'émotions. J'ai aussitôt suspendu ma campagne pendant un mois, et j'ai regardé les funérailles à la télévision, organisées dans ma propre église, sous la conduite du révérend Jeremiah Wright. La situation sur le front familial étant déjà tendue, nous avons décidé de souffler un peu et de partir quelques jours à Hawaï pour Noël. À peine avions-nous atterri que le gouverneur appelait à une session extraordinaire pour voter une loi sur le renforcement du contrôle des armes à feu que j'avais soutenue. Comme Malia, alors âgée de 18 mois, était malade et ne pouvait pas prendre l'avion, je n'ai pas pu rentrer pour participer au vote, ce qui m'a valu d'essuyer une volée de bois vert dans la presse de Chicago. J'ai perdu avec 30 points d'écart. Quand je parle aux jeunes de politique, je raconte parfois cette histoire comme l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ajoute en général un petit épilogue. Quelques mois après ma défaite, un de mes amis, craignant de me voir sombrer dans la déprime, avait insisté pour que je l'accompagne à la convention démocrate de 2000 qui devait se tenir à Los Angeles. « Il faut que tu remontes en selle », m'avait-il dit. Mais à mon arrivée, quand j'ai voulu louer une voiture à l'aéroport, Ma carte American Express a été refusée parce que j'avais dépassé le plafond autorisé. Lorsque j'ai fini par réussir à rejoindre le Staples Center, je me suis aperçu que le badge que m'avait procuré mon ami ne me permettait pas d'accéder à la salle. Et je suis donc resté dehors, à me morfondre en regardant les festivités sur des écrans télé. Enfin, après un nouvel épisode gênant un peu plus tard dans la soirée, lorsque mon ami n'est pas parvenu à me faire entrer dans une fête à laquelle il avait été invité, je suis retourné à l'hôtel en taxi. Je me suis écroulé sur le canapé de sa suite, puis j'ai repris l'avion pour Chicago, où je suis arrivé juste au moment où Al Gore a accepté l'investiture. Toute cette histoire est plutôt amusante, surtout au regard de ce qui allait m'arriver par la suite. Elle en dit long, comme je le confie à mon auditoire, sur la nature imprévisible de la politique et sur la résilience dont il faut être capable. Je ne leur dis rien, en revanche, des sombres pensées que je ruminais dans l'avion qui me ramenait ce jour-là à Chicago. J'avais presque 40 ans, j'étais fauché, je sortais d'une défaite humiliante et mon couple traversait une passe difficile. J'ai songé pour la première fois de ma vie peut-être que j'avais pris un mauvais virage, que les ressources d'énergie et d'optimisme que je croyais posséder, le potentiel sur lequel j'avais toujours parié, venaient d'être intégralement dépensés en pure perte pour une quête futile. Pire encore, j'étais conscient que ma prétention à me faire élire au Congrès m'avait été dictée non par je ne sais quel rêve désintéressé, l'ambition de changer le monde, mais par le besoin de justifier les choix que j'avais déjà faits, ou de flatter mon ego, ou encore d'apaiser le sentiment de jalousie que j'éprouvais à l'égard de ceux qui avaient réussi là où je n'avais encore rien accompli. Autrement dit, j'étais devenu exactement ce que je m'étais promis quand j'étais plus jeune, de ne jamais devenir. J'étais devenu un homme politique, et pas le plus brillant.